Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la réunion de synthèse. La réunion de synthèse. Alors, la réunion de synthèse est un outil de travail qui permet d'améliorer la coordination et la prise en charge des patients, surtout dans des structures comme l'hospitalisation à domicile, le SSR, la psychiatrie et en gériatrie, tout simplement pour des patients qui restent longtemps. Alors, donc, normalement, pour les structures en HAD, un patient doit avoir au moins une réunion de synthèse tous les 30 jours. Conséquence, en fait, s'il est là 2 mois, ben, il a 2 réunions de synthèse. Alors, c'est un outil qui permet surtout d'assurer une qualité dans les prises en charge et cela nécessite une organisation qui va alimenter les dossiers IFAQ, à savoir le financement à la qualité. Alors, ce travail doit être coordonné par 3 personnes. La première personne qui participe à la réunion de synthèse, c'est la secrétaire médicale. La secrétaire médicale tient la liste des personnes à voir en séance et elle rappelle les patients qui ont été préalablement vus et donc qui doivent être revus au-delà de 30 jours. Autre personne également importante et obligatoire pendant la réunion de synthèse, c'est le médecin soignant, le médecin coordonnateur, dans le sens où ce médecin dirige la séance des travaux et pendant ces réunions autour du patient, le médecin va rappeler les bonnes pratiques, que ce soit sur les réflexes à avoir face à des événements indésirables liés au traitement ou tout simplement passer des petites formations sur les pathologies et les signes cliniques. Alors donc, il y a une personne qu'on oublie trop souvent, mais dont la présence est indispensable, c'est le cadre du service présent à ce moment-là. Et dans les structures comme l'HAD, c'est l'infirmière coordonnatrice ou le cadre en SSR, identique, idem, donc le cadre en psychiatrie. Dans tous les cas, la présence du cadre du service est importante. J'insiste là-dessus, simplement parce que on a tendance à voir aujourd'hui dans les hôpitaux une espèce de désolidarisation des cadres par rapport aux soignants. Et cela est malheureusement préjudiciable parce que ce sont les cadres qui s'occupent essentiellement des personnels soignants et ce sont les soignants qui touchent le patient. À partir de ce moment-là, l'ensemble de l'équipe doit être coordonné par le cadre et donc le cadre normalement va prévenir les soignants et différents corps de métier, par exemple l'assistante sociale, la psychologue, le diététicien, le référent douleur, va le prévenir de la réunion de synthèse et de l'importance de collecter les données liées à leurs différentes activités. Donc, de façon très schématique, ce travail doit se faire obligatoirement entre 3 personnes. La secrétaire médicale qui organise la liste des patients en voie, le médecin qui dirige les travaux, et le ou la cadre qui rappelle en séance, en session, tout le personnel nécessaire, les paramédicaux qui connaissent le patient, qui le touchent. C'est le cadre qui les invite en réunion de synthèse. Et il est de fait obligatoire de tenir pour chaque réunion de synthèse une feuille d'émargement, ainsi que de reprendre les excuses des absents. Alors, donc, la réunion de synthèse se traduit matériellement dans le dossier patient par un document composé de plusieurs chapitres. Bien entendu, une première partie sur l'identification du patient, donc nom, prénom, date de naissance, ainsi que la liste nominative des soignants présents lors de la réunion. Il ne faut pas oublier de mettre la date de cette réunion de synthèse. Donc, en réunion de synthèse est rappelé l'ensemble des pathologies et antécédents, facteurs de risque et allergies du patient. Il faut également se demander est-ce qu'il est, pour les personnes âgées multiopérées, bien sûr, est-ce qu'il est le patient porteur d'une chambre implantable? Est-ce qu'il a été mis en contact avec des patients infectés? Et quel est son statut en termes de bactéries multirésistantes? Est-ce qu'il faut mettre en place un isolement ou pas? Alors, dans ce premier chapitre, il est important de rappeler l'histoire de la maladie et le projet de soins. Alors, quand on est sous une structure de type HAD, le projet de soins est connu avant l'admission. Sur les structures SSR également, mais pour ce qui concerne le court séjour, après très souvent traitement des pathologies de la personne âgée, là, il est important de rappeler en réunion de synthèse ce pourquoi le patient est là et éventuellement pourquoi il ne sort pas tout de suite. Alors, dans la réunion de synthèse, il faut mentionner la notion de directive anticipée. Est-ce que le patient est concerné ou pas? Et si le patient est informé? On est là sur des patients essentiellement âgés pour lesquels la notion de soins palliatifs est envisagée. Donc, c'est très très important de recueillir les directives anticipées pour ces patients-là en fin de vie. Alors, pour les structures de type HAD aux soins de suite, rééducation, réadaptation, il est important d'identifier la nature du séjour, le mode de prise en charge principal, le mode de prise en charge associé, et pour ce qui concerne le SSR, tout ce qui est finalité principale de prise en charge, les manifestations morbides principales, sans oublier les diagnostics associés. Donc, tous ces éléments-là permettent d'alimenter le codage PMSI. De la même façon, combien de fois le patient est vu par l'infirmière? Est-ce qu'on est sur une prise en charge de type nursing? Et quelles sont les principales cibles ou macro-cibles sur le patient? C'est important pendant la réunion de synthèse parce que ça permet à tout le monde d'être en phase. Hein. Et le simple fait d'être face à une personne âgée constipée ou qui présente une infection urinaire, une infection bronchopulmonaire ou des rougeurs au niveau des zones d'appui, ça permet donc à travers ces informations recueillies dans les transmissions ciblées de faire le point avec le médecin. Donc c'est des choses qui sont importantes à mentionner pour identifier donc et adapter les soins. Alors, toujours important, quelle est l'autonomie du patient? Est-ce que ce patient a des risques de chute? Et s'il y a eu chute, quelle est la date de la dernière chute? C'est important aussi parce que la notion de chute permet d'identifier des risques de réhospitalisation. Alors, il faut aller chercher la cause de la chute. Est-ce qu'il s'agit de chute d'origine mécanique? Simplement un tapis, par exemple, dans une maison? Ou des chaussures mal adaptées, ou est-ce que la chute fait suite à une hypotension orthostatique qu'on voit très souvent chez les personnes âgées qui poursuivent anormalement un traitement antihypertenseur alors qu'elles n'en ont plus besoin. Ou de la même façon, les patients âgés qui sont mis sous neuroleptique à tort alors qu'on le sait tous, les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Donc, dans l'autonomie, il existe certaines échelles, par exemple l'AVQ, c'est très utilisé en maison de retraite, mais surtout en HAD et en SSR. Il faut également préciser la notion de grabatariat ou d'utilisation de fauteuil ou de lève malade. Voilà, donc un point doit être fait sur le plan social en lien avec l'assistante sociale. L'objectif premier, c'est d'apprécier le besoin en termes d'aide, aide financière au domicile notamment, portage d'un repas éventuel, la toilette et le lien potentiel avec la maison de retraite si le patient est concerné. Alors, dans certains cas, il est important sur un plan social de mettre en place une complémentarité autour de l'ergothérapeute, c'est-à-dire que l'ergothérapeute peut faire et doit faire dans ce cas un bilan pour faciliter le retour du patient au domicile dans de bonnes conditions. Alors, il est également important de faire un point sur la notion des besoins psychologiques. Nous le savons, la population vieillit et peut apparaître à un moment ce qu'on appelle un syndrome de glissement. Le syndrome de glissement, c'est une dépression qui fait suite à une hospitalisation. Donc, le patient a peur de tomber, a peur de mourir et rentre dans une dépression liée au vieillissement. Donc, le psychologue doit aider à détecter cette faiblesse. C'est une pathologie qui est très grave parce que le taux de décès n'est pas négligeable. De la même façon, dans la réunion de synthèse, il y a un chapitre douleur qui doit être évalué. Est-ce que le patient a mal, oui ou non? Donc l'évaluation de la douleur se fait avec une échelle visuelle analogique. On doit évaluer également l'alimentation et la nutrition, en passant bien sûr sur des critères tels que l'évolution du poids et le calcul de l'indice de masse corporelle quand c'est possible. C'est un élément obligatoire dans la prise en charge des personnes en HAD, en SSR et pour les personnes âgées. Nous sommes hors cadre, bien sûr, des prises en charge ambulatoires. Le risque escarre doit être évalué de la même façon. Et la question, c'est est-ce que le patient a besoin de rééducation, oui ou non? Et en cas de rééducation, quels sont les actes réalisés et leur fréquence? On doit également préciser si le patient a besoin de contention ou pas. Les personnes démentes sont parfois obligées d'être attachées. Donc, est-ce que ils sont attachés dans leur lit la nuit ou en permanence dans leur fauteuil? Donc c'est important à préciser lors de la réunion de synthèse. Parce que la contention n'est pas une prise en charge sans risque. Alors pour les structures de type HAD, l'indice de Karnofsky est obligatoire. Il permet d'évaluer le statut global du patient. Lorsque l'indice de Karnofsky est à 10, le patient est moribond. À 20, il est complètement alité. À 30, il fait lit-fauteuil. À 40, il peut se lever et aller ouvrir la porte de sa maison, faire entrer quelqu'un. Donc, c'est de façon très schématique. Voilà. Donc, et on finit dans la réunion de synthèse sur le chapitre traitement. Il est important de parler du traitement et surtout faire un focus sur les antibiotiques lorsqu'ils existent. C'est important pour faire face, bien sûr, à l'apparition de résistance bactérienne, notamment l'évaluation à 72 heures des antibiothérapies. Il faut également réfléchir sur la présence ou non de psychotropes, avec les risques derrière de confusion, de chute. Et puis la notion d'anticoagulant ou pas. Dans tous les cas, un point sur le traitement doit être fait en lien avec le médecin traitant. Identifier le service médical rendu par les différentes thérapeutiques et surtout mesurer ce qu'on appelle la balance des risques et la balance des bénéfice, la balance risque et bénéfice. Au total, une bonne réunion de synthèse se traduit par un compte-rendu dans le dossier du patient. Lorsque le patient est hospitalisé plus de 30 jours, il doit avoir une deuxième réunion de synthèse. Ça permet de refaire le point sur ce patient-là. Et pour garantir une bonne qualité sur un plan global, cette réunion de synthèse doit être envoyée au médecin traitant et aux différents collaborateurs, que ce soit les médecins spécialistes qui ont touché le patient ou aux infirmiers qui ont pris en charge ou aux paramédicaux qui ont pris en charge le patient antérieurement à cette hospitalisation-là. Voilà, donc la réunion de synthèse, c'est un outil de qualité majeure qui permet de faire le point sur le patient, mais qui permet aussi aux médecins de transmettre des connaissances sur les bonnes pratiques médicales. En quelque sorte, on profite de la réunion de synthèse pour se mettre d'accord sur le patient, sa prise en charge d'une part, mais également faire de la formation médicale continue. Donc, vous pouvez me contacter directement sur mon portable 06 42 49 83 en cas de question ou par mail françois.ouyenga@mi.com. Je vous remercie.